Bonjour à tous. Merci beaucoup à tout le monde. J'espère que vous passez une bonne journée jusqu'à maintenant. Nous allons discuter de mariage en deuxième heure d'émission. Vous savez que les Québécois aussi sont ceux qui se marient le moins au Canada, mais ce qui est un phénomène assez étonnant, c'est que même si les Québécois se marient de moins en moins en plus, on constate qu'ils le font beaucoup plus tard dans leur vie. Et tout à l'heure, ils font plus tard, puis en plus, autre chose intéressante, il faut absolument que je vous dise ça, c'est que de plus en plus, les mariages sont célébrés par quelqu'un de la famille, un ami, un proche. Alors, tout à l'heure, en deuxième heure d'émission, on va recevoir des gens qui ont décidé, après vraiment beaucoup d'années de vie commune, d'unifier leur vie devant Dieu ou devant leurs amis. Et je pense que ça va vous permettre de nous dire si vous, vous avez fait la même chose. Vous savez que les... Après, en même temps, j'ai des chiffres sur les divorces, mais ça, peut-être que je garde ça pour une autre journée. Hein? Je voudrais pas quand même mettre les deux puis vous déprimer là-dessus. Même si, sincèrement, 67% des couples qui vont s'être mariés vont divorcer dans les 5 ans qui suivent. Je vous dis ça demain. Mon Dieu que c'est plat, hein? Mais non, on reste dans le mariage, on reste dans la bonne idée de célébrer l'amour. Nous allons également ensuite... Parlons-en tout de suite ce matin parce que il y a quelque chose qui va se passer au cours des prochains jours, des cocaïnomanes anonymes qui vont venir ici en grand nombre. C'est le 34e congrès mondial à Montréal. C'est une association qui a été lancée en Californie il y a plusieurs années. Quelques années après, c'est le chapitre montréalais qui s'est ouvert. Je vous en ai déjà parlé au cours des amis. On a déjà reçu son président. Éric est membre de l'association des cocaïnomanes anonymes. Il est avec nous ce matin. Bonjour Éric.
Bonjour Isabelle.
C'est vrai qu'il y a des gens un peu partout dans le monde qui viennent raconter un peu, c'est ça le but, hein? Cocaïnomane anonyme, c'est le principe des alcooliques anonymes, c'est venir raconter un peu son parcours avec la cocaïne, comment ça a pu être complexe et douloureux de s'en sortir, parce que c'est une dépendance importante.
Hein? Oui, absolument, c'est une dépendance très importante, au même titre que l'alcoolisme, que d'autres drogues. Mais aujourd'hui, donc, ça commence le 34e congrès mondial. Puis, comme vous l'avez dit, on va y avoir à peu près 1 000 à 1 500 membres des cocaïnomanes anonymes qui vont participer, dont beaucoup viennent de partout dans le monde, parce que c'est un congrès mondial.
Alors, évidemment, on trouvait que c'était important de recevoir un médecin, le docteur John Sader, et médecin de famille spécialisé en traitement des dépendances. Merci d'être là, docteur Sader.
Isabelle.
Merci beaucoup. On voulait élargir, évidemment, parce que, bon... Il y a la cocaïne. On parle beaucoup là, ces jours-ci encore, depuis plusieurs mois, c'est un vrai problème du fentanyl. On sait que le fentanyl, c'est un problème qui a causé la mort de plusieurs milliers de personnes au Canada, qui est prescrit aussi dans des cas où la douleur est immense. Et par exemple, les gens qui sont en oncologie, on va leur donner du fentanyl, de la morphine. C'est quand même toutes des substances qu'on donnait moins à une certaine époque, qu'on donne un peu plus facilement aujourd'hui, mais qui ont des répercussions aussi et qui peuvent développer des dépendances.
Oh, tout à fait, tout à fait. Écoutez, pour ce qui est de l'usage des opiacés, parce que fentanyl, c'est un opiacé, donc c'est pas du tout la même famille que la cocaïne. Ouais. La cocaïne, c'est un stimulant avec les amphétamines, le speed, le méthamphétamine, etc. Les opiacés, il y a eu une période, il y a à peu près 20 ans, que les médecins se sont fait beaucoup taper sur les doigts parce qu'on ne traitait pas assez la douleur physique. Et donc, on a beaucoup banalisé l'usage des opiacés. Aux États-Unis comme au Canada, il faudrait en donner plus. Mais pas évident toujours de traiter la douleur parce que dans la souffrance de la personne, il y a la douleur physique, mais il y a la douleur psychologique aussi, puis il y a l'acceptation de la personne. Vous savez, les grands gars là, qui s'entraînent là, comme des fous 3 heures par jour puis qui ont mal aux muscles le lendemain, il n'y en a pas un qui consulte parce qu'il a mal aux muscles. Il en est même fier. Mm-hmm. Donc, il y a une douleur, mais il n'y a pas de souffrance. Mais un joueur de hockey qui se pète le genou et qui joue junior majeur, eh bien, il vient de peut-être voir sa carrière disparaître devant lui. Fait que lui, là, il a pas juste mal au genou. Il a mal à « Oh my God, est-ce que je vais travailler chez McDo le restant de mes jours? Mm-hmm. » Et quand on lui donne que ce soit du MS Contin ou du Dilaudide ou un autre opiacé, il y a tendance, si on n'aborde pas avec lui la souffrance de « Oh my God, t'as peut-être perdu ta carrière », ben il va avoir tendance à surconsommer puis devenir dépendant puis utiliser le médicament à mauvais escient. Et c'est un peu ça qu'on a vu. Au moins 50 % des gens qui ont des problèmes d'opiacés, ça vient des prescriptions médicales, parce qu'on est parti à « on n'en donnait peut-être pas tout à fait assez », à « on en donne un peu trop librement », et il n'y a pas beaucoup de formation chez les médecins en toxicomanie. Malheureusement, c'est encore comme ça aujourd'hui.
C'est vrai qu'il y en a très, très peu,
très peu.
Des médecins. Je lisais quand même qu'il y a une couple de semaines, on disait que pour la première fois en 6 ans, le nombre de personnes qui ont reçu une ordonnance d'opioïdes est en baisse au Québec. C'est la RAMQ là, qui donnait ces chiffres-là. Il y a une petite baisse de 2% par rapport à 2016, en 2017. Bon, évidemment, probablement parce qu'il y a un petit peu plus d'informations, comme vous venez de le faire, Dr Sader, auprès des médecins, qui étaient très généreux dans leur prescription d'opiacés avant, mais aussi, je dirais, parce que, puis ça, j'en ai eu une expérience personnelle et de proche, on a tellement de mauvaise gestion de la douleur au Québec, on ne sait pas quoi faire. Êtes-vous d'accord avec ça? Quelqu'un a mal, quand ça saigne, tu sais, tu recous, tu mets un pansement, là, tu sais comment faire. Mais comment gérer la douleur? Des cliniques de la douleur au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Quand il y en a, c'est 2 ans d'attente. Mm-hmm. En attendant, on va donner de la morphine à du monde. Même à des jeunes qui ont un mal de dos, une personne sur deux au Québec a mal dans le dos. Comment parvenir à soigner cette douleur-là?
Mais je vous dirais que beaucoup de monde peuvent arriver à donner un sens à leur douleur, tu sais, comme celui qui s'entraîne pendant 3 heures. Mais c'est, moi, je pense que c'est le bout de souffrance.
Mais des fois, ça n'a pas de sens.
Non, c'est ça. Puis
souvent, la douleur n'a pas de sens.
Souvent, elle n'a pas de sens. Souvent, les gens ne savent pas comment se traiter vraiment. Mm-hmm. Tu sais, faire de la physiothérapie, se remettre en forme, faire des étirements, tout ça. On s'en va plus vers la facilité. Je veux une pilule pour me guérir. Docteur, donnez-moi quelque chose. Ils ne veulent pas entendre, bien, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu perdes ta bedaine, il va falloir que tu marches un petit peu plus souvent. Les gens veulent la réponse facile. Ils ne veulent pas souffrir. Et...
Mais ils veulent surtout arrêter de souffrir. Probablement. Et c'est là le lien, et là je reviens, vous voyez où je vais, là? Je refais le lien avec les gens qui sont à risque d'une dépendance aux drogues. Mmh. C'est que si tu es plus fragile et que tu veux d'arrêter de souffrir, la drogue, c'est magnifique pour ça. Éric, les gens qui sont chez vous, cocaïnomanes anonymes, il y a bien du monde qui ont pris de la coke parce qu'ils se trouvent bien intelligents sur la coke, ils dorment pas, ils perdent du poids, tout va bien, ils sont les kings of the world. C'est ça que ça fait, là.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, Isabelle. Je veux juste apporter une petite précision. Mm-hmm. Cocaïne anonyme, effectivement, ça s'appelle cocaïne anonyme, mais ça s'adresse à toutes les toxicomanies.
Oui, c'est ça. Souvent, c'est lié. Il n'y en a pas juste une,
ouais,
d'ailleurs.
D'ailleurs, la troisième tradition dit que la seule condition pour être membre, c'est le désir d'arrêter la cocaïne et toutes les substances qui altèrent le comportement, incluant l'alcool.
C'est ça.
Puis là, vous venez de parler d'opiacés. Mmh. Moi-même, ma première drogue de choix, ça a été l'héroïne. Donc, fait que je connais très bien les opiacés. Puis, dans l'association des cocaïnes anonymes, il y a beaucoup de membres qui ont pris des tas de drogues, dont des opiacés. Mais effectivement, c'est toutes les drogues, de toute manière, quelles qu'elles soient, ça va enlever à la fois une douleur physique et puis une douleur morale.
Ouais. Mais on les a beaucoup banalisées, ces drogues qui enlèvent de la douleur, parce que comme justement c'est à peu près le seul remède, en guillemets, qu'on a pour enlever un peu de douleur aux gens qui ont une vraie douleur physique. Et puis là, ce sont les médecins. Moi, je me mets à la place d'un médecin aussi devant un patient qui est en grande douleur. Qu'est-ce que tu fais comme médecin? Tu veux le soulager? Tu veux soulager ton patient, Dr Sader?
Tout à fait, mais tu veux surtout traiter la cause. Hein? Si on s'assoit sur une punaise, la réponse, c'est pas de prendre du Tylenol puis de rester assis.
Ouais.
C'est lève-toi, puis marche, puis enlève la punaise.
Ouais.
Fait que on est pris entre une société qui veut des réponses rapides, qui ne veut pas rien faire pour lui-même. C'est un peu de la médecine McDo, docteur, fix me, corrige-moi. On oublie aussi, et ça, c'est quelque chose de perdu peut-être, mais vous savez, douleur et souffrance en latin, ça se ça s'appelle passion.
Ah, oui.
Et de façon très intéressante, quand on pense à la vie en général, quand les gens ont vécu des douleurs et des souffrances à un moment donné dans leur vie, souvent, ils arrivent à virer ça en une passion. Des enfants qui ont été très malades quand ils étaient jeunes, qui décident de devenir médecins parce qu'ils ont souffert de leucémie, ils s'en sont sortis. Il y a plein d'histoires comme
Attendez,
ça.
Là, vous venez de m'en apprendre une. On va vraiment se coucher moigné Dieu soir. Vous dites que... douleur, souffrance, en latin, c'est passion.
OK? La passion du Christ, c'est la douleur et la souffrance. C'est pas, oh my God, l'amour. Mais quand on vire ça, ça devient... C'est comme la vie nous donne des citrons, on fait de la limonade.
Ouais. Fait qu'il faudrait fait y penser que, à une fois avant que, de dire on est quelqu'un de passionné. C'est peut-être pas une bonne façon de se décrire.
Ben c'est peut-être bien, parce que si on vire ça en limonade, mais ça veut dire qu'on a donné un sens.
Ouais.
Et quand les jeunes vivent... Parce que, écoute, on commence à consommer quand? À 14, 15, 16, 17
Éric,
ans.
Éric, c'est 15 ans, lui.
Hein? Ouais. Les pires années, en tout cas, de ma vie, là, entre 15 et 22, j'ai trouvé la vie bien rough.
C'est vrai, moi aussi.
Okay? On n'est pas assez
avez-vous
grand.
Avez-vous consommé, vous, docteur?
Moi, je n'ai pas consommé de substance, mais moi, j'étais un peu trop investi dans mon tennis, mon course à pied, mon soccer puis ma guitare.
Ouais.
Hein? Sauf que pour ces choses-là...
Mais c'est bon, ça.
Il y a quelque chose que si tu investis qui te revient, tandis que la consommation, c'est vraiment vide. C'est comme manger des calories vides, manger du sucre.
Ouais. Vous, Éric, ça a été 15 ans, c'est ça? À 15 ans, à l'âge
à
de 15 ans?
À 15 ans, j'ai commencé, oui, à fumer de la marijuana. Comme,
On va y venir. Hein?
Comme,
je gardais ça pour juste avant la pause.
Comme beaucoup de toxicomanes.
Ouais.
Et puis, mais j'ignorais à ce moment-là que moi, je souffrais d'une maladie qui est la toxicomanie aussi.
C'est considéré comme une maladie.
Oui, absolument. Puis quand on m'a expliqué ça à un moment donné, finalement, j'ai été très content parce que c'est à travers Cocaïnoman Anonyme, moi, que j'ai appris ça, puis que j'ai réalisé qu'il y avait une solution. Parce que Dr Sader va vous parler de tout ce qu'on peut faire sur le plan médical pour aider les toxicomanes. Mais je peux vous parler de mon cas personnel.
Ouais.
Moi, j'ai fait plusieurs détox, j'ai fait plusieurs thérapies, sauf qu'à chaque fois que je sortais de là, je me pensais guéri.
Ah ouais.
Et puis, quelques semaines, des fois quelques heures après ma sortie, je recommençais à consommer. Et puis, à un moment donné, il a fallu que je réalise que ça ne marchait pas, puis que j'avais besoin d'aide. Et c'est à ce moment-là que j'ai atterri à la suite d'une thérapie, où d'ailleurs j'ai rencontré Dr Sader, la dernière thérapie, dans laquelle on nous parlait aussi du programme en 12 étapes. Là,
des Cocaïnoman Anonyme, oui. Comme, mais vous, Éric, vous avez commencé vers l'âge de 15 ans, consommer de la marijuana. Ensuite, vous êtes passé à quoi? Après la mari?
Ensuite, j'ai pris de l'héroïne à l'âge de 18 ans. Puis,
3 ans après, c'était l'héro?
Oui.
Que vous aviez acheté où? Dans la rue? Comment?
Qu'un ami m'avait proposé.
Ah ouais, c'est ça.
Qu'un ami m'avait offert. Et puis...
Puis après l'héroïne?
Et puis après l'héroïne...
Injecté, là, vous piquiez et tout?
Écoute, pas au début, c'est sûr. Ouais. Mais à un moment donné, oui. Oui, oui.
C'est du crack, après ça?
Non. Non, mais après ça, ben, écoutez, j'ai eu une période d'abstinence de 6 ans et demi, mais j'ai été un héroïnomane fonctionnel, je dirais.
Ça se peut, ça?
Ça se peut, entre guillemets. Entre guillemets, j'avais un travail, alors c'est sûr que, bon, je manquais parfois, là, mais...
Comment ça marchait? Vous vous piquiez le matin, le soir?
Juste pour
vous tenez.
Être capable de fonctionner.
Ah,
juste
ouais.
pour être capable de fonctionner. Et puis, après ça, bon, ben, j'ai eu une période d'arrêt de 6 ans et demi, dans laquelle je suis devenu... J'ai dû compenser, moi. Je suis devenu workaholique. Et puis, à un moment donné, on m'a proposé de la cocaïne. Puis, dans ma tête, je m'imaginais que c'était...
Plus correct, parce que
ouais.
c'est ça.
Oui, parce que
quand
je
on est workaholic, ouais, c'est ça, on travaille, on est dans... Les avocats, les ingénieurs, tous ceux qui travaillent fort, là, les gens qui travaillent à la bourse, qui sont beaucoup dans le milieu de la finance, les vendeurs sur la route, tous ces gens-là sont beaucoup plus...
Mais je vous dirais, ça touche tout le monde, que ce soit un avocat, quelqu'un de la finance, même un médecin ou un itinérant.
Aussi, ouais.
Je veux dire, c'est la même chose. On souffre tous de la même chose quand on est quelqu'un comme moi qui est un toxicomane ou un alcoolique.
Docteur Sader, on va s'arrêter ici. Bien sûr, vous restez avec nous. Éric également, qui est membre de l'Association des cocaïnomanes anonymes. On trouve que c'est important de profiter de cet événement d'aujourd'hui où il y aura des milliers de gens qui vont venir témoigner à Montréal pour le grand congrès des CA, des cocaïnomanes anonymes à Montréal, de parler du risque qu'on a de développer une dépendance. Puis je trouve que c'est encore plus important au moment où, là, on l'a la date, hein, 17 octobre prochain, vous le savez, ça va être la légalisation de la marijuana au Canada, un des seuls pays au monde où ça va se faire comme ça, de façon aussi ouverte Et il y a beaucoup de gens qui sont inquiets de ça. Moi, je pense qu'on a des raisons de poser des questions. Moi, je suis une des premières à trouver que c'est peut-être pas la meilleure idée, surtout pour les jeunes. Puis d'ailleurs, je regardais les âges, hein, dans le reste du Canada, à part le Québec et une autre province, ça va être 19 ans. Au Québec, ça va être 18. Fait qu'à partir de 18, tu vas pouvoir fumer de la marie. Puis ça va être tout à fait correct. Puis je sais pas si vous le savez, les parents, là, mais on vient de perdre notre dernier argument pour dire à nos jeunes, fume pas, c'est illégal, tu peux te faire pogner par la police. Mais non, c'est légal. Fait que là, je sais pas, va falloir trouver d'autres choses. Va falloir user de beaucoup d'amour. C'est la seule chose que je vois possible, c'est de leur dire à quel point on les aime puis à quel point il faudrait qu'ils y pensent puis qu'on leur fait confiance. Mais ça va pas être... je sais pas. J'ai des grandes questions, moi, là-dessus. Et de la Marie, vous venez de l'entendre, Éric, lui, c'est ce qui a commencé à fumer du cannabis. Ça l'a amené à l'héroïne, ça l'a amené à développer une dépendance. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont à risque, puis il y en a d'autres qui ne le seront peut-être pas. Vous me direz votre témoignage là-dessus à vous. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation comme celle-là? Est-ce que vous avez des craintes par rapport à tout ce qui se passe? On a parlé des opiacés également. 514-790-9850. 1-866-790-9850. On vous demande ce matin, est-ce que vous pensez que vous êtes à risque d'une dépendance aux drogues? Évidemment, ça dépend de votre expérience personnelle avec les drogues. Il y en a qui en ont déjà essayé, qui ont déjà fumé un joint, ils n'ont jamais eu de problème, ils n'ont pas trouvé ça le fun, ils n'ont jamais refumé. Il y en a des expériences comme ça. C'est vrai, Dr Sader est avec nous, Dr John Sader, qui est médecin de famille spécialiste en traitement des dépendances. Éric est membre de l'Association des cocaïnomanes anonymes. Dr Sader, il y a des gens qui, même s'ils essayent la coke, même s'ils essayent le pot, ils ne vont pas être accros.
Tout à fait.
Est-ce qu'on sait c'est quoi le pourcentage? Est-ce qu'on sait 25, 75?
C'est probablement de l'ordre de 75 % des gens n'ont pas tous les facteurs ou suffisamment de facteurs pour trop aimer ça. Bottom line, c'est trop aimer ça. Mm-hmm. Quand quelque chose, que ce soit la vitesse en auto, si t'aimes trop la vitesse en auto, tu risques d'avoir des accidents. Ouais. Si t'aimes trop le gâteau au chocolat, tu risques de devenir obèse à cause du gâteau au chocolat.
C'est l'excès.
Et les gens ne sont pas tous pareils dans leur goût. Ouais. Mais il y a une partie de ça, c'est génétique, c'est héréditaire. Il y a des gens qui sont nés avec une sourdité relative, qui sont malentendants pour le plaisir. Puis ces gens-là, quand ils touchent à quelque chose qu'ils aiment, ils en abusent de façon très excessive, mm-hmm, parce que de la même façon qu'un malentendant va mettre le volume de sa télévision beaucoup plus forte pour être capable d'entendre. La première fois qu'on le voit regarder la TV, on va penser qu'il est excessif jusqu'à ce qu'on réalise qu'il est malentendant, puis on dit « Ah, là, je comprends. Ouais. » Et dans la société...
Mais il y a une compulsion quand même aussi.
Oui, il y a une compulsion qui s'installe. Ben, quand ça fait tellement longtemps que tu te sens mal, parce que ces gens-là, ils viennent au monde avec ce mal de vivre. Si on demande à Éric, il va vous dire que depuis qu'il était haut comme trois pommes, qu'il se sentait pas bien. Ah, ça, c'est bien avant de consommer.
C'est vrai, ça, Éric?
Absolument, c'est vrai. Je me suis toujours senti différent, à part, inadéquat. Et puis, j'imagine que... Et c'est pas que j'imagine, je sais que quand j'ai commencé à consommer, puis quelle que soit la substance que j'ai consommée, ce sentiment de malaise, ces angoisses-là disparaissaient. Selon les substances, ça disparaissait plus, avec d'autres moins, mais effectivement, puis au début, c'est comme une solution.
Ouais.
Par contre, après, ça devient un gros problème parce qu'on est totalement dépendant.
Ouais.
Mais effectivement, c'est ça. Alors, est-ce que je suis né avec ça? Est-ce que... Ça, j'en sais rien.
Ouais.
Puis, c'est quand j'ai décidé de plus creuser moi-même et de chercher de l'aide ailleurs, et puis d'accepter vraiment cette aide-là, d'accepter que moi-même, moi, Éric, j'étais pas capable, que y a comme un miracle qui s'est produit. Et puis ça s'est produit à travers ce programme qu'on nous propose. Là.
Ouais.
Et justement...
Il faut être courageux et il faut être fait fort, comme on dit, hein, pour être capable de s'avouer soi-même. Vous venez de dire, je n'étais pas capable, il fallait que je me rende à l'évidence, Éric n'était pas capable. Mais ça prend beaucoup de courage pour dire ça de soi-même.
À ce moment-là, je ne sais même pas si c'était du courage, c'était de l'abandon total, ouais. Puis de l'acceptation totale, au contraire de du courage. Le courage, c'est venu après, quand j'ai commencé à rentrer dans ce programme qu'on m'offrait. Là. Et puis, pendant ces 5 jours qu'il va y avoir, où il va y avoir le congrès, justement, il va y avoir des témoignages de personnes qui vont parler d'où ils viennent, comment ils ont fait pour s'en sortir, mais également il va y avoir des tas d'ateliers thématiques. Mmh. Et puis on est là finalement pour montrer qu'il existe une solution.
Voilà.
Après tout ce que la médecine peut faire, il existe une solution.
On a Josée qui nous appelle au 514-790-985. Josée, vous êtes abstinente, oui, depuis un an, c'est bien ça?
Oui, exact. Mais c'est ça, dans le fond, j'appelais parce que je trouvais important d'en parler. Mm-hmm. Dans le fond, moi, j'ai 27 ans, mais j'ai commencé à consommer, là, je vous dirais que j'ai eu une très belle enfance. Après, il est survenu des facteurs aussi au sein de la famille, la maladie, tout ça. J'avais 13 ans, puis j'ai été victime d'un viol. Je dis pas que c'est la cause, mais je pense que c'est une multitude de facteurs qui a fait que par la suite, c'est ça, j'ai débuté par la marijuana.
Ouais.
J'ai donc, par la suite, l'alcool, bien évidemment. Je vous dirais que c'était cyclique. Puis plus j'avançais en âge, plus je vous dirais que comparativement aux autres adolescents autour de moi, bien ça se cristallisait un peu plus. Tu sais, moi, par exemple, que ce soit à l'école, par exemple, j'ai été faire une technique en éducation spécialisée. On dirait que je voulais trouver un sens à ma souffrance. J'ai été faire des thérapies, j'ai consulté dès l'âge de 14 ans. Donc, je vous dirais que c'est vraiment quand j'ai admis, là, au travers de toutes les drogues que j'ai pris, les médicaments, tout ça, l'année passée, là, que finalement, ma seule volonté à moi, elle suffisait pas. Mm-hmm. Parce que j'étais fonctionnelle, puis, je veux dire, personne se doutait, là, on pensait que j'étais abstinente depuis 2011, mais je continuais à fonctionner, là, avec le speed au quotidien, tout ça, même dans mes relations intimes. Puis finalement, j'ai vécu un autre abus là, à l'âge de 23-24 ans. Puis je voudrais que les 2 années qui ont suivi ont vraiment débouché là, sur la cocaïne, tout ça. Et là, je voyais que tout seul, je pouvais pas m'en sortir, même si j'avais été au centre André Boudreau, tout ça. Donc, j'ai été en maison de thérapie, là, ou maison Pélado. Puis déjà là, en entrant là-bas, j'acceptais que maintenant, je pouvais plus me permettre, si je voulais, parce que j'ai un beau potentiel, j'ai une belle famille, de l'amour, tout ça, mais il a fallu que je règle un peu toute la souffrance que j'ai accumulée au travers de ces années-là. Puis finalement, la thérapie, c'est ça, j'ai été faire ma thérapie en désintox. Par la suite, j'ai pu aller au CALAC, parce que j'avais débuté avant la désintox, le CALAC. Mais ma consommation augmentait de manière fulgurante après chaque rencontre. Donc, ils m'ont suggéré, dans le fond, parce qu'il ne fallait pas mettre de filet de sécurité, de vraiment aller en désintox pour régler ça, pour pouvoir aller plus en profondeur sur les blessures. Puis là, je vous dirais que ça va faire un an bientôt là,
wow,
que je suis abstinente.
Ben,
puis, en effet, tu sais, comme Eric il dit, c'est ça, à un moment donné, on a perdu la maîtrise de sa vie. Puis il y a tout un processus. Le processus de chacun est différent. Puis je vous dirais que, tu sais, est-ce que c'était inné? Moi, je pense que, tu sais, il y a eu de l'alcoolisme dans les deux côtés de ma famille, mm-hmm, beaucoup. Puis je voudrais que c'est un ensemble de facteurs qui peuvent contribuer à, tu sais, on mélange ça avec
Deux agressions aussi, deux agressions sexuelles, Josée. Je pense que ça, c'est sûr que ça rentre dans la balance,
ça
forcément
rentre en ligne de compte, ouais, mais aussi la disposition, tu sais, parce que c'est certain que j'ai eu des troubles d'anxiété suite aux agressions et tout ça. Donc, pour gérer mon anxiété, par exemple, j'allais boire beaucoup le soir, j'allais à l'université le jour, donc là, c'était les psychostimulants.
Ouais.
Donc, tu sais, c'est ça. Donc, je pense que plusieurs facteurs.
J'ai une question pour vous. Est-ce que vous trouvez, oui, qu'on banalise un peu trop la consommation de marijuana? Parce
en
que
effet,
je retiens que vous avez dit que c'est en par
effet
là que vous avez commencé.
Exact. Puis moi, je suis dans le domaine, là, puis je vous dirais que moi, ça m'inquiète beaucoup parce que oui, ça a été prouvé là avec les études dans d'autres pays que la légalisation avait pour but de responsabiliser un petit peu plus les consommateurs. Mais j'imagine que dans ces pays-là, là, il y avait un plus gros filet de sécurité sociale. Ici, c'est comme on a lancé ça comme projet de loi, mais notre structure des soins de santé et tout ça, il y en a de la prévention, mais on fait la prévention parce que là, on a décidé qu'on allait légaliser. Moi, je pense que ça peut... c'est lancé comme ça, mais on tient pas compte là qu'en ce moment, là, nous, au Québec, on n'est pas outillés au niveau social, au niveau de la prévention, sensibilisation, pour faire face à ces jeunes-là qui ont des prédispositions. Je suis mitigée sur le sujet, mais j'ai commencé par la marijuana.
Ouais.
Puis, moi, je suis pas pour la légalisation.
Merci
Parce
beaucoup.
Que je me souviens, quand j'avais 14 ans, j'avais plus de difficultés à me trouver de la marijuana que de l'alcool. Et c'est ça. Puis là, si on légalise, je pense que ça va être encore plus accessible, même si on dit qu'on va mettre plein de lois ou de modalités.
C'est déjà tellement accessible aujourd'hui là, pour les jeunes, là, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3.
Exact.
Puis ils ont tous des téléphones, ils reçoivent des textos de leurs pocheurs pour leur dire « OK, j'ai ton stock. » Puis ça coûte pas cher. Puis c'est décourageant. Là. Vraiment décourageant. Merci beaucoup, José. Félicitations pour ce témoignage formidable qui va sans doute donner des ailes à d'autres qui, comme vous, ont envie de s'en sortir. En tout cas, ça a généré toutes sortes de choses chez notre auditoire parce que nos lignes se sont remplies pendant votre témoignage, José. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause, mais je vous donne la parole parce que visiblement, vous avez envie de nous raconter ce qui se passe. Alors, à tout de suite, tout le monde. On se demande ce matin, qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont être plus à risque d'une dépendance aux drogues, quelle qu'elle soit, puis on met l'alcool là-dedans. On a même parlé de la vitesse tout à l'heure avec le docteur John Sader, parce qu'il n'y a pas qu'un seul facteur qui fait qu'on peut devenir dépendant. À la base, je résume un peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, à la base, on peut même avoir un certain mal de vivre, un mal d'être, quelque chose que le docteur Sader a dit de très beau pendant la pause. Vous m'avez dit, des fois, il faut se perdre pour mieux se retrouver. Ça veut dire se toucher le fond du baril pour être capable de s'en sortir. C'est malheureux qu'on arrive là, mais effectivement, il y a bien des gens qui vont le dire. Il a fallu, Éric, sans doute aussi, que vous touchiez le fond pour être capable de dire aujourd'hui, ben, je me prends en main puis je suis abstinent. On a Serge qui est avec nous, qui nous appelle. Votre fils, Serge, bonjour, est consommateur de haschich.
Oui, c'est ça.
Ça vous inquiète?
Oui, parce que exactement comme vous dites, mardi soir, mon garçon, il était là. Il était rendu au fond. Il m'a appelé pour me dire qu'il voulait me parler, là. Puis aussitôt que je l'ai vu, j'ai dit « Comment ça va? » Là, il s'est mis à pleurer. Il dit « Garde, j'ai un problème de consommation de drogue. C'est du hashish. » J'ai dit « Parfait, Yannick. Ça fait 4 ans, je te demande, tu as un problème? » « Non, 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 tout va bien. » Mais là, il était vraiment au fond.
Il a quel âge?
26.
Ouais.
Puis là, on a commencé à faire des recherches. On connaît ça. Puis là, j'ai dit à mon garçon, je dis là, regarde, on arrête, on s'en va à l'hôpital. Fait qu'on s'en va chercher de l'aide. On a passé la nuit, puis ça, c'est hier, là. On a passé la nuit à l'hôpital. Jamais il a dit non, 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 c'est correct. Il est resté, il était prêt.
Ouais.
Mais quand on banalise l'utilisation du hashish ou de la marijuana, le docteur, tout ce qu'il a dit, ben prends-toi en main, tu es un adulte, arrête. C'est juste ça qu'il a dit. Fait que là, mon garçon, lui, il a dit, wow, regarde, je suis prêt à m'aider, je viens à l'hôpital, j'attends, je cherche de l'aide, puis vous m'en donnez pas, ben on va te donner un rendez-vous pour un petit cadre dans 2 semaines. Là, je dis non, il faut pas qu'il sorte. S'il sort, il va en consommer encore. Fait que là, mon garçon, il était choqué. Là, le docteur, il a dit correct. On va te prescrire un rendez-vous avec la psychiatre aujourd'hui. Fait que entre 9h et midi, fait qu'on a entendu 15 heures de temps. Il a rencontré la psychiatre. Mais entre-temps, il a rencontré une travailleuse sociale.
Mm-hmm.
Là, c'était le paradis. Elle l'a écouté, elle a donné ce qu'elle a besoin, elle a arrêté de travailler. Là, aujourd'hui, là, il est dans une maison de toxicomanie. Là.
Mm-hmm.
Il est dans une maison pour une semaine, puis là, il se prend en main. Bon. Fait que, tu sais, il y a deux jours, là, j'étais tellement fier là, qu'il m'avoue. Mais hier matin, là, avec la réponse qu'on m'a donnée, là, j'étais déçu, là. Mais la travail sociale, elle a tout réglé, là. Mais ça fait du bien de savoir qu'il est une plasture, ouais, qui va être en sevrage, parce qu'il a essayé tout seul, mais il n'a pas été capable.
Mais vous savez qu'une semaine, c'est court, hein, puis il va falloir être beaucoup présent dans la vie de votre fils, Serge, sans doute, pour bien le... Parce que les rechutes sont quand même faciles.
Oui, mais après, il y a des rendez-vous de travail social, de psychiatre, et il va être suivi après, là.
Ouais.
Mais au moins, il a fait le premier pas pour s'en sortir.
Ouais. Mais là, vous avez raison, c'est qu'il faut souvent se battre, hein, pour avoir des services. Puis c'est vrai qu'à l'urgence, avec leur espèce de loi qu'il faut que tu sortes au bout de 24 heures, on veut pas que tu colles là, puis c'est pas pour ce genre de problème. À l'urgence, il faut que ça saigne. Puis là, on vous soigne un problème là. Mais si vous avez un problème plus grand, c'est pas la place. C'est ça qu'on va nous dire, hein, docteur Salaire. Merci, Serge. Avez-vous quelque chose à dire à Serge?
Écoutez, je suis content que son fils soit rendu là. C'est que ça prend souvent... Ouais. Ça dépend des substances, mais un alcoolique, par exemple, ça va lui prendre, selon leur dire à eux, pas selon notre opinion, leur dire à eux, entre 17 puis 20 ans de conséquences d'alcool avant de s'avouer qu'ils ont un problème puis d'aller en thérapie. La cocaïne, c'est plus une dizaine d'années. Le crack, c'est encore beaucoup. C'est de la cocaïne, mais beaucoup plus forte. Souvent, c'est 4-5 ans avant d'épuiser son budget complètement puis d'aller en thérapie. C'est sûr que lorsque c'est banalisé puis beaucoup de monde consomme, bien, ce qui se ressemble s'assemble. Et une des conséquences de la consommation, c'est qu'on va chercher auprès d'une substance ou d'un comportement un lien émotif qui remplace les liens émotifs avec les autres. Mais si on se tient avec des gens qui sont pareils, ben ils remarquent pas qu'on n'est pas là pour eux autres.
C'est ça qui arrive souvent, c'est qu'on se tient avec des gens qui prennent la même drogue, puis on s'éloigne de ceux qui nous disent « prends pas ça, c'est pas bon pour toi ».
Et ça diminue la souffrance. De la même façon, si je vous invite chez nous, puis je suis en train de regarder le hockey, et vous aimez pas ça le hockey, et je vous parle seulement pendant les pauses, vous allez vous sentir rejeté, vous allez dire « sais-tu, docteur Sader, regarde ton hockey, là, moi je reviendrai une autre fois. Mais si tu aimes le hockey, on va la consommer ensemble tu ne seras pas souffrante.
Puis là, il y a toute la notion d'amis. Là, on se découvre des amis, Eric, aussi. Hein?
Bon. Exact.
On a Pierre avec nous. Bonjour, Pierre.
Oui, ben moi, j'ai vu avec une douleur chronique. Je me suis mis à consommer du crack. Puis c'est parce que c'était plus facile d'avoir du crack que du pot, dans le fond. Puis c'est souvent que le pot, sur le marché, il est de mauvaise qualité.
Ouais.
Fait que le monde, c'est sûr que l'influence, c'est vrai. Quand on se fait influencer, on est porté après à essayer des affaires. Mais moi, quand j'ai eu la permission d'aller m'en acheter, en tout cas légalement, faut dire...
Du pot thérapeutique, vous voulez dire?
Oui, c'est plutôt une permission.
Oui.
À cause de quelqu'un qui vit avec ma condition.
Ouais.
Ben, vu que c'était beaucoup meilleur, j'avais pas de raison pantoute de me garocher dans des autres drogues. Moi, je me dis, le bon côté, c'est bon pour quelqu'un qui a vécu une enfance difficile. Ça donne une jouissance de vie pour quelqu'un qui a eu une perte de jouissance. Mais c'est vraiment pas conseillé pour soigner une dépression. Parce que vu que ça stimule les sens, ça peut aggraver une dépression aussi. Comme quelqu'un qui a une maladie mentale, ça peut aggraver sa maladie mentale parce que ses sens sont plus stimulés.
Ouais.
C'est pour ça que moi, en tout cas, c'est pas de ça qu'on parle, mais de la conduite automobile, ben non, ça, c'est un autre sujet, là. Mais la drogue, c'est le contraire de l'alcool. La drogue va stimuler les sens. Ça donne une joie de vivre, oui, mais si quelqu'un veut soigner une dépression avec ça, il va se ramasser avec le problème en double le lendemain.
Exactement, vous avez tout à fait raison.
Conseils d'un docteur.
Oui, tout à fait. Merci, Pierre. Merci.
C'est plus léger. C'est plus léger, c'est plus fort que le café.
Oui, ben bon, ça dépend aussi du genre de pot que vous... le pot puis le café, c'est pas la même chose. Il y a vraiment toutes sortes de... Ça dépend beaucoup du THC qu'il y a dans le cannabis. Là. On a Max, d'ailleurs, qui prend... Vous en prenez toujours de la cocaïne et du pot, Max?
Ben, premièrement, mes salutations, Mme Maréchal.
À vous aussi.
Non, je prends plus de cocaïne. Ça fait une couple d'années que j'en prends plus, comme j'expliquais. Mais du pot, par exemple, j'en ai consommé toute mon adolescence, puis à 40 ans aujourd'hui, j'en consomme encore.
OK.
La cocaïne, là, c'est comme tout le monde. Là. On commence dans les clubs, là, on commence avec les amis et tout, là, puis Par exemple, j'ai comme eu une conscience morale dans mon cerveau qui a dit que il fallait que je trouve une façon d'arrêter et tout. Et moi, j'ai été parmi les 75% que vous parlez qui a été chanceux, qu'il n'y a pas eu besoin de recours à de l'aide pour arrêter la cocaïne. J'ai eu du monde autour de moi qui m'ont bien entouré. Puis tout à ce point-là, j'ai été chanceux. Par exemple, pour le cannabis, c'est une autre chose.
Ouais.
Le cannabis qu'on veut légaliser, le cannabis qu'on veut mettre récréatif, c'est pas une bonne chose à faire. Le cannabis est un dépresseur. J'ai 40 ans aujourd'hui, madame, puis je me bats encore pour essayer d'arrêter de fumer du pot. Pour moi, je pense que c'est comme quelqu'un qui fume une cigarette. Il va falloir plus que des interventions puis des façons de protéger nos jeunes à pas fumer du pot ou à savoir les conséquences de fumer du pot. On sait tout ce que ça fait, consommer du pot. On sait tout ce que ça peut faire avec nos neurones et tout. C'est vrai que ça rend veg. C'est vrai que quand on fume du pot, là, du pot récréatif, madame, là, arrêtez de vous dire que c'est récréatif, parce que quelqu'un qui fait quelque chose de récréatif, c'est quelqu'un qui s'amuse. C'est quelqu'un qui va faire des activités avec ses amis en buvant un verre de vin, en buvant un verre de bière. Fumer du pot, là, quelqu'un qui va fumer du pot là, 90% du temps, il va rester assis sur son sofa puis il va jouer au PlayStation. Mm. C'est pas la bonne chose. J'ai encore de la misère à comprendre notre société en 2018 qu'on doit se dire on va faire comme les autres pays là ou comme les autres États aux États-Unis là, puis, ouais, on va légaliser ça.
Non, c'est pas partout aux États-Unis là, c'est une fausse croyance de penser. C'est le Canada qui va être le leader. Tout le monde nous regarde là-dessus, Max. Tout le monde regarde le Canada parce que ils en reviennent juste pas de ce qui va se passer ici. Tous les yeux sont rivés sur nous parce qu'on va être l'exemple à suivre ou ne pas suivre. Mais les gens, il n'y a pas d'autres pays dans le monde où c'est à ce point légalisé. Là.
Pas du tout. Écoute, l'exemple, c'est...
Il y a le Colorado aux États-Unis.
C'est un bel euphémisme pour des cobayes.
C'est ça, on va être les cobayes.
Il n'y a personne, il y a beaucoup de théories, on est beaucoup de spécialistes de tout. Il y a des médecins, des psychologues, des anthropologues, il y a plein de monde qui ont des idées. Il n'y a personne qui sait qu'est-ce qui va vraiment arriver. Moi, j'aurais aimé ça voir un espèce de moratoire. Bon, regarde, on va décriminaliser, on va voir ça pendant trois ans.
Ouais.
On va faire les études, on va arrêter d'arrêter le monde puis leur donner des casiers judiciaires. Ça, je suis complètement pour ça.
Oui, tout à fait.
Les gens payent un gros prix pour leur consommation au niveau social puis relationnel. Puis si on parlait du relationnel, j'aimerais ça entendre les auditeurs par rapport à comment ça a affecté votre couple, vos enfants, ta relation avec ton père, ta mère, ta sœur. Parce que c'est ça que la toxicomanie abîme le plus. Et c'est pour ça que des mouvements comme Cocaïnomane Anonyme ou Alcoolique Anonyme ou les autres, là où est-ce que ça fonctionne, parce que ça fonctionne, c'est à travers de la relation avec soi et avec les autres.
Mm-hmm.
Et malheureusement, ici, on est dans une société capitaliste, consommatrice, où est-ce que si c'est pas la Marie, c'est le Rolex, puis c'est la Porsche, puis c'est la blonde 50 ans plus jeune que toi, puis away donc, tu sais. Fait qu'à un moment donné, à force de regarder à l'extérieur, on découvre qu'il n'y a pas d'autre place pour trouver un soi qu'à l'intérieur. Mm. Puis c'est ça le bas fond, c'est qu'à un moment donné, ça ne marche plus. Et c'est pour ça que, tu sais, on est un peu à côté des États-Unis, on n'est pas peut-être aussi pire qu'eux pour la consommation, mais... C'est pas ça qu'on est préoccupé. Qu'est-ce que ça va donner pour vrai? Est-ce qu'on veut vraiment...
Et puis là, vous avez vu aujourd'hui, là, on commence à se poser des questions. Là, on craint que le crime organisé pénètre les entreprises qui sont effectivement légales dans l'industrie du pot. On vient d'allumer là-dessus.
Oui.
Écoute, non, mais c'est, je veux dire, il y a du monde qui dort au gaz, ça se peut pas.
Ben,
là.
Écoute, on peut se demander, c'est pas déjà là.
Ben, c'est clair, one. Voyons
écoute,
donc.
Quand on a ouvert le casino à Montréal, la première chose que les gens se sont dit, c'est écoutez, un casino, c'est le meilleur endroit pour laver de l'argent
c'est
au
clair.
Monde.
Ouais.
Parce que tu peux miser 100 000 piastres, tu peux perdre 50 000, mais là, tu pars avec 50 000 clean.
On revient tout de suite après ceci. Il nous reste peu de temps. On va vous parler, René. Vous consommez de la coke en ce moment, c'est ça, René?
Oui.
Oui.
Oui, exact.
Est-ce que vous avez envie d'arrêter?
Ben oui. J'ai deux désintox en arrière, j'ai pris Direvia, la pilule qui coupe la soif, puis qui coupe le craving, l'envie de consommer.
OK. Et vous prenez de l'alcool aussi en même temps?
Ah oh, oui, quand je consomme, je peux consommer au 2 jours 2 grammes, 2 grammes et demi. Puis je peux boire à peu près 24 bières là, en arrière, là, puis j'ai encore soif. Là.
Ah oui, je comprends. Donc, est-ce que ça doit vous prendre beaucoup d'argent, non? Avez-vous les,
les moyens? Oui. Je travaille 50-60 heures semaine, puis dans mes deux jours de congé, ben, je me trouve de l'ouvrage, je fais de la mécanique, je fais du body pour avoir du lousse pour pouvoir en acheter d'autres. Là.
On parlait, le docteur Sader parlait...
Il
parlait, le docteur, des relations, de la façon dont ça influence négativement les relations. Est-ce que ça vous a isolé, vous diriez, votre consommation d'alcool puis de cocaïne, René?
J'ai un fils de 29 ans.
Ouais.
Il vient d'avoir un petit bébé, il voulait un mois. Puis ça fait 8 ans que je ne l'ai pas vu. Tu sais, parce qu'il m'a pogné 2-3 fois avec la peine dans le nez.
C'est sûr.
Tu sais, là, aujourd'hui, il va à Québec, il vit sa vie. Ça a brisé le couple 2 fois. Là, ben là, j'ai essayé de le ramener, puis c'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce que c'est toujours ton petit sac qui te prend, là.
J'ai Eric avec moi qui va vous dire quelque chose, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, je ne sais pas où vous êtes et ce que vous faites, mais Eric, peut-être qu'on peut dire à René si ça y tente d'aller vous rencontrer.
Absolument, René. Moi, je m'appelle Eric et puis je suis membre de l'association des cocaïnomanes anonymes, puis... ce que tu viens de dire, ça me touche d'autant plus que ça me rappelle, moi, ce que j'ai pu vivre également.
Mm-hmm.
Ce que je peux t'assurer, René, là, c'est qu'on a une solution pour ça.
C'est sûr qu'ils ont une solution pour tout, mais c'est vraiment pas facile, là.
Ouais,
parce
c'est
que
ça.
Quand t'es rendu que ça fait 3 jours que le prochain n'a pas eu de tes nouvelles, t'appelles chez vous, hein? Comment ça va, puis là, tu fais un craving.
Ah oui, le bot pocher, il veut vous garder, il veut vous garder ben oui, sur la liste, ben oui.
Mais
ça.
René, es-tu à Montréal, toi?
Non, moi, je suis à Nîmes-Basse-Laurentine.
OK, mais c'est pas loin. Si ça te tente de venir nous rencontrer, là, ça commence aujourd'hui, le congrès, jusqu'à lundi, ben, tu vas être le bienvenu. Puis tu peux demander Eric à la réception quand tu arrives, puis ça me fera plaisir de te rencontrer. Nous, on est là pour aider, puis offrir une solution, puis montrer que ça marche. Puis tu vas rencontrer des milliers de cocaïnomanes qui sont abstinents et pour qui ça a fonctionné, parce que ça fonctionne.
Mais c'est sûr que c'est difficile, mais c'est bon. On pense beaucoup à vous, René. Merci d'avoir pris la peine de nous appeler, déjà téléphoner, puis le dire comme ça à tout le monde. C'est déjà un grand geste que vous avez posé. Merci beaucoup. Puis
puis si là, ça peut réveiller une coupe de chandelle, là, ça fait du bien, parce que, laissez-moi vous dire, c'est vraiment une partie d'enfer.
Ouais, merci.
C'est une grosse descente.
On vous souhaite de vous porter mieux, René. Merci beaucoup. Merci
Parfait.
Bien.
Au revoir.
On rappelle où aller, Eric, pour ce congrès?
Oui, alors ça commence aujourd'hui. Les portes vont ouvrir à 4 heures cet après-midi. C'est au centre Sheraton, au 1201 René Lévesque. Et pendant 5 jours...
À Montréal.
À Montréal. Pendant 5 jours, les participants vont pouvoir avoir des réunions 24 heures sur 24... des conférenciers venant du monde entier, traduits avec traduction simultanée.
Anglais-français,
Il va y avoir des ateliers thématiques.
Ouais.
On va parler de différentes choses.
C'est surtout un lieu où les gens qui cherchent des solutions et veulent s'en sortir vont pouvoir trouver des gens qui ont réussi à le faire. Puis c'est beaucoup d'entraide, finalement.
Absolument. On est là pour transmettre le message. Moi, quand je suis arrivé, quelqu'un m'a transmis ce message d'espoir, de foi et de courage, finalement. Puis ça a fonctionné pour moi. Puis nous, on est là pour transmettre ce message à tous les toxicomanes, alcooliques, ceux qui souffrent et puis qui cherchent une solution.
Merci. Merci beaucoup, Eric, de votre témoignage. Merci bien. Eric est membre de l'Association des cocaïnomanes anonymes. Quelqu'un me disait, les narcoïques anonymes, c'est un peu la même chose. Narcotiques anonymes, c'est un peu le même genre de...
Toutes les fraternités sont basées sur un programme.
Le programme des AA, les 12 étapes. Docteur Sader, merci. Vous êtes toujours tellement un bon médecin. Merci bien. Fait qu'on va rappeler aux gens de ne pas se décourager par rapport à leur dépendance.
Ah, tout à fait. Tout à fait, il y a de la lumière au bout du tunnel. Il faut mettre son ego de côté puis suivre la recette. Puis c'est au bout de ça qu'on découvre qui nous sommes.
Merci.
C'est au bout de ça qu'on découvre le bonheur.
Merci à vous deux.